France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
8h36, le prochain directeur général de l'Opéra de Paris est notre invité ce matin, Alexander Neff, actuellement directeur de la Canadian Opera Company à Toronto, a été désigné lors d'un récent conseil des ministres, successeur de Frédéric Lisner. Il prendra ses fonctions en 2021 et il est déjà évidemment très attendu. Actuellement aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, puisqu'il est aussi directeur artistique de l'Opéra de Santa Fe, Alexander Neff nous a accordé cet entretien en fin de semaine dernière, entretien au cours duquel il est revenu notamment sur sa longue collaboration entre 2004 et 2008 au sein même de l'Opéra de Paris avec le maître des lieux d'alors, Gérard Mortier. Alexander Neff était alors directeur de casting.
Déjà, j'ai beaucoup envie de retourner dans une maison où je connais toujours les gens, où j'ai des connexions. Cette période à l'Opéra entre 2004 et 2008 a vraiment marqué ma carrière de manière très très divers, mais différente, au niveau de casting, intégré dans une très grande maison avec une qualité artistique absolument extraordinaire. Cette expérience a vraiment marqué le travail que j'ai pu effectuer après à Toronto et également à Santa Fe. Je pense qu'il est très très important de connecter en fait avec l'histoire, le passé de la maison, avec les connecter avec mes propres expériences pour la faire évaluer en fait. Je ne crois pas que dans les grandes maisons de répertoire c'est la révolution qu'il faut, c'est plutôt l'évolution et un développement naturel, organique si vous voulez.
Vivre avec cet héritage, avec l'héritage de Gérard Mortier, c'est à la fois une chance, j'imagine, et aussi un risque. Peut-être il va falloir s'en détacher.
Il va certainement falloir monter un projet qui soit le mien. Il faut certainement pas répéter le passé. C'est pas seulement l'héritage de Gérard Mortier, c'est l'héritage de vraiment de toutes les prédécesseurs sur lesquels on bâtit ce nouveau projet.
Alors quels axes prioritaires, puisqu'on va maintenant parler de l'artistique, Alexander Neff, l'exploitation du répertoire français, quel répertoire?
On a environ 400 ans de répertoire français. C'est vraiment pas l'explorer d'une manière encyclopédique, ça me semble un peu trop scientifique si vous voulez, mais vraiment regarder un peu l'histoire des commandes de l'opéra, les pièces qui ont été créées à l'opéra au cours des années, pouvoir les revisiter et après jeter un regard un peu plus large sur le répertoire français en général, puisque c'est vraiment le cœur d'où vient l'Opéra de Paris.
On va parler de création aussi, mais quels sont les metteurs en scène avec lesquels vous aimeriez travailler dès le début finalement? Vous allez avoir cette période de transition avec Stéphane Lisner. Quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit dès maintenant, Alexander Neff?
J'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir à ça en fait, parce qu'évidemment il y a les plus grands noms de la mise en scène qui sont présents à l'opéra maintenant, qui ont été présents pendant très longtemps, et il faut toujours assurer une présence pour les plus grands artistes, pas seulement pour la mise en scène à l'opéra, mais j'aimerais aussi réfléchir à de nouveaux noms, des artistes qui ne sont jamais venus pour une raison ou l'autre, et vraiment élargir ce groupe d'artistes avec qui on travaille. Mais il ne faut pas tout à fait abandonner tous ces grands noms. Je pense que ça ne fait pas beaucoup de sens. J'ai beaucoup d'appréciation pour Bruno Castellucci, pour Krzysztof Warlikowski, pour Dimitri Tcherniakov et beaucoup d'autres. J'ai travaillé avec eux dans le passé. Alors, c'est bien des relations que je voudrais continuer. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi réfléchir sur de nouveaux talents des deux côtés de l'Atlantique, je pense, et élargir.
s'il n'y est à peine que j'admirerai de tous mes yeux. Et au bout des grands bois, la plaine, les voyageurs, je les éclairs. Oh, mon cousin, ce qui c'est moi, c'est mon premier voyage. Regarde fuir, curieuse, les arbres frissonnant au vent. Et j'oubliais toute joyeuse que je partais pour le couvent, pour le couvent, pour le couvent.
Angela Giorgiou sur l'air de Manon de Jules Massenet avec l'Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie en 2015. Une pièce qui sera jouée cette année à l'Opéra de Paris. Alors quel projet artistique dans le futur à partir de 2021 pour l'Opéra de Paris? On en parle ce matin avec notre invité Alexander Neff, prochain directeur général qui prendra la suite de Stéphane Lissner. Question notamment à Alexander Neff ce matin, quid des coproductions entre les deux rives de l'océan Atlantique, coproduction qu'Alexander Neff a déjà mis en place. Est-ce qu'elles ont vocation à continuer?
Les coproductions sont importantes pour entretenir des relations avec les autres grandes maisons partout au monde. En même temps, une maison comme l'Opéra de Paris doit créer des productions propres à la maison. Il faut trouver la bonne balance.
Pour ce qui est du ballet, comment est-ce que vous voyez l'équilibre entre évolution et révolution, l'équilibre à trouver entre danse classique et danse contemporaine? C'est aussi une question qui va évidemment se poser dans les mois qui viennent pour l'Opéra de Paris.
J'ai travaillé avec le ballet à l'époque, et c'est vraiment les deux piliers de la maison, c'est le ballet et l'opéra, qui sont assez équivalents. Même historiquement, c'est une compagnie qui a toujours été le ballet et l'opéra. Il faudra absolument maintenir cet équilibre, si vous voulez. C'est une compagnie absolument extraordinaire qui, comme vous le dites, très 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 forte en répertoire classique, mais qui aussi a vraiment élargi son répertoire jusqu'à la danse contemporaine. Il a très peu de compagnies, même si je ne sais pas s'il y a une compagnie qui peut effectivement faire ce travail au même niveau que les artistes du ballet de l'opéra.
Quand on parle de l'avenir de l'Opéra de Paris qui fête cette année ses 350 ans, on parle de réforme. C'est une maison qu'il faut réformer ou projeter dans l'avenir. L'enjeu pour le directeur de l'Opéra de Paris que vous allez devenir, Alexander Neff, c'est de la mener comment, cette réforme, en direction de quel public, avec quel projet artistique, ça on l'a un peu évoqué, et avec quelle politique sur la gestion et la gouvernance de cette grande maison.
Bon, déjà, pour moi, la chose la plus importante, puisqu'on vient d'avoir cette nomination, et c'est vraiment avoir une période d'écoute, si vous voulez, une période de recherche, une période de réflexion. Rajeunir le public, c'est toujours la plus grande question, le public de l'avenir. Je pense que le public de l'opéra est assez jeune. Au moins comparé au public en Amérique du Nord, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'avance. Je pense que ça peut uniquement se faire avec une étroite collaboration avec le système éducatif. Ça veut dire des programmes éducatifs que l'opéra propose de la maison, dans la maison, mais aussi en étroite collaboration avec le système éducatif pour vraiment préparer le public de l'avenir d'un âge très très jeune. Pour ce que nous faisons, pourquoi c'est important, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer comme individu d'une interaction avec l'art. Qu'est-ce que ça nous donne de vivre avec l'art, d'avoir les moyens de comprendre avec l'art, de vraiment avoir de se sentir sur le même niveau avec un œuvre d'art et de le comprendre par ses propres moyens.
Est-ce qu'un des pans de l'évolution dont vous nous parlez, Alexandre Neff, va être aussi d'aller peut-être trouver d'autres sources de financement? Vous nous disiez il y a quelques minutes qu'à Toronto, l'opéra est une institution privée ou qui fonctionne comme une institution privée. On sait que de ce côté-là de l'Atlantique, les subsides publics ont plutôt tendance à stagner ou à régresser. Est-ce que là aussi, il y a une partie de votre projet qui se situe sur ce genre de questions?
Oui, absolument. Déjà, l'opéra a eu beaucoup de succès avec le mécénat et, dans les années passées. C'est certainement une route qu'il va falloir poursuivre et augmenter, grandir. Il faut dire une chose très clairement, si on veut que l'Opéra de Paris reste l'Opéra de Paris qu'on connaît aujourd'hui, la subvention d'État sera toujours très très importante. Il y a un niveau de subvention qu'il faut maintenir pour maintenir la stabilité de la maison. Ceci dit, de développer les ressources propres, le mécénat et les recettes va devenir de plus en plus important.
Stéphane Lissner, à qui vous allez succéder, évoquait récemment la nécessaire stabilité sociale qu'il faut aussi trouver dans la gestion d'une institution telle que l'Opéra de Paris. Il explique qu'il passe énormément de temps sur ce genre de questions syndicales, politiques. Vous allez là aussi trouver un contexte tout à fait différent de celui que vous connaissez à Toronto.
Oui, absolument. C'est là aussi qu'il faudrait vraiment travailler en étroite collaboration avec Stéphane Lissner et les équipes de l'Opéra pour comprendre ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on est en train d'être préparé. Et comme je vous ai dit avant, vraiment, j'aurai une période d'écoute, d'apprentissage, de réflexion avant d'agir.
Avec Alexandre Neff, futur directeur général de l'Opéra de Paris, actuel directeur de l'Opéra de Toronto, où avait été joué cette année le Hadrian de Rufus Wainwright. Alexandre Neff, donc, qui prendra la succession de Stéphane Lissner à l'Opéra de Paris en 2021. Il était au téléphone avec nous depuis Santa Fe au Nouveau-Mexique, entretien enregistré en toute fin de semaine dernière. 8h49 sur France Culture. À partir d'aujourd'hui, lundi, et pour toute la semaine, France Culture vous propose une grande traversée passionnante sur Walt Disney. Oncle Walt, Mr. Disney, cette série documentaire est signée Mathilde Wagman. Bonjour.
Bonjour.
Avec Gilles Mardi-Rossian à la réalisation, vous avez voulu montrer toutes les facettes de cet homme à la fois extrêmement célèbre, Walt Disney, et finalement très peu connu.
Absolument. Ouais, ce qui est célèbre, c'est la marque, en fait. Hein. Il a fait de son nom un logo qu'on connaît tous, voilà, et on connaît les productions culturelles qui, depuis plus de 90 ans maintenant, irriguent la culture à l'échelle mondiale. Mais l'homme, lui, est assez peu connu. Et on a voulu raconter un peu qui il était et essayer d'aller chercher comme ça, justement, qui était cet homme au-delà de l'image publique qu'il a lui-même construite. Hein. Il a travaillé à bâtir cette image très sage, donc le Walt, donc l'homme qui veille sur les enfants d'Amérique. On a essayé de raconter ce qu'il y avait un peu
derrière la
façade. Parce que
la réalité n'est pas forcément celle-là ?
Bah, la réalité est plus forcément plus compliquée, oui, plus contrastée que l'image qui est une image un peu marketing au
et
fond.
Un peu lisse, hein, celle de.
Absolument, celle absolument. De Disney. Ouais, ouais. On raconte aussi que c'était un entrepreneur assez génial, hein, talentueux dans la façon dont il a réussi à bâtir son entreprise, mais aussi quelqu'un qui pouvait être très violent dans sa manière de diriger ses équipes. On évoquera notamment demain la grève de 1941 qui a agité ses studios et à laquelle il a réagi très violemment. Voilà, c'est un personnage controversé, pas toujours sympathique, mais assez passionnant.
Un patron à la main ferme et effectivement un personnage passionnant. Vous remontez jusqu'aux origines normandes de sa famille
Alors, on n'évoque pas cet aspect-là. Effectivement, le nom Disney, dit-on, viendrait de la ville de Normandie, Dissigny. Ouais. Mais on ne parle pas de ça parce qu'au fond, on ne sait pas si c'est vrai. Ça fait partie de la légende. La famille aimait bien dire que l'histoire de la famille se rattachait à la France. Mais voilà, on ne sait pas si c'est entièrement vrai.
Bon, en tout cas, Bambi, c'est bien Disney, ça c'est certain. Sûr. Il en sera question aussi demain de Bambi. Évidemment, ça a été un tournant majeur dans toute l'histoire de l'entreprise Walt Disney. On va écouter un extrait de votre grande traversée, Mathilde Wagman, avec le philosophe Maxime Revert qui s'exprime sur ce film Bambi.
Le vrai projet du film, en fait, c'est de montrer, par exemple, lorsque la pluie tombe, le rythme auquel elle tombe. Lorsqu'une goutte de rosée glisse sur une feuille, montrer comment la feuille se plie lorsque la goutte tombe. Montrer les nuages qui passent dans le ciel de la forêt alors que les branchages, en quelque sorte, restent. Ce sont ces différences de rythme qui sont microscopiques. Je veux dire, on s'amuse pas à regarder ça quand on est en forêt parce qu'on le ressent. Enfin, c'est un tout très complexe, la forêt. Et Walt Disney, soudain, se passionne pour ces détails parce que je pense qu'il y voit justement le symbole de son art et le moment où il peut réellement donner à voir en fait ce qu'il est en train de faire. Et donc, c'est fascinant à voir Bambi pour un adulte parce que quand on regarde ce film, on se rend compte que c'est en quelque sorte un Fantasia sans musique. C'est un film qui est d'une audace formelle hallucinante, justement dans ces scènes où on ne raconte rien, où en fait vous pourriez considérer que Walt Disney met en place le contexte de son histoire, mais vous vous rendez assez vite compte qu'en réalité c'est ça l'histoire en fait. C'est l'histoire de feuilles qui poussent et puis qui meurent, c'est l'histoire d'une pluie qui tombe et puis qui sèche, c'est l'histoire de la neige, l'émerveillement de la glace, parce que la glace, on glisse dessus et on glisse à différents rythmes et on ne maîtrise pas ces rythmes. Donc à nouveau, on est dans ce rapport au temps, dans ce grand champ, en fait, un grand champ qui n'est pas le champ de la nature. Bambi, ça n'est pas un grand champ écologique, c'est pas une grande lettre d'amour à la nature. Parce que réellement, si on compare au Bambi de Saltaine, c'est ça l'amour de la nature, c'est le Bambi de Saltaine, c'est-à-dire une histoire précise où on identifie précisément, je dirais, le type de forêt auquel on a affaire, le comportement des animaux, etc. Le Bambi de Disney, ça n'est pas un hymne à la nature au sens où presque rien n'est naturel là-dedans. Je veux dire, sa nature est complètement fantasmagorique, ses animaux sont complètement anthropomorphisés. C'est pas vraiment un hymne à la nature. En revanche, oui, c'est un hymne magnifique au temps.
Le philosophe Maxime Revert qui a préfacé Bambi, le roman de Félix Saltaine aux éditions Rivage Poche. Il parlait donc de ce film Disney. C'était un extrait de La Grande Traversée de Mathilde Wagman sur Walt Disney, Uncle Walt, Mr. Disney. Vous abordez aussi tout au long de cette Grande Traversée, Mathilde, évidemment toute l'étendue des productions Disney. On reste pas sur les films qu'on a bien tous connus.
Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a bien sûr le cinéma d'animation en particulier, qui est l'un des cœurs des productions Disney, mais on va parler aussi de bandes dessinées. Hein, les comics Disney, Mickey et autres ont énormément influencé des générations d'auteurs de bandes dessinées à l'échelle mondiale. Et on va parler d'une dimension tout à fait intéressante aussi, qui est celle de l'urbanisme, avec les parcs d'attractions notamment. Voilà, donc on va essayer de montrer à quel point tout ça est varié et plus riche qu'on ne pourrait le croire.
Toute la semaine, la Grande Traversée donc sera consacrée à Walt Disney sur France Culture. Uncle Walt, Mr. Disney, par vous, Mathilde Wagman. Merci d'être venue ce matin.
Merci à vous.
Et donc on vous retrouve à partir de 9h06. Réalisation Gilles Mardi-Rossian pour cette Grande Traversée. Premier épisode tout à l'heure de Marceline à Hollywood, une histoire américaine. Ne manquez pas ce premier épisode.